11h20. Je dois vraiment remercier Lilio de Castro. Il a été parfait. Le président Nemrod observa à travers le vert coloré des fenêtres les falaises voisines du nid d'hirondelles, idéales sentinelles abruptes et inhospitalières. Il m'a remis, dès qu'il l'a eu entre les mains, la liste précise des 300 TPC clandestins. Leurs noms ont été identifiés sur la base Pangaea. Dès que les assignés les activeront, ils signeront leur arrêt de déportation. Pas en semi-liberté cette fois, tout droit vers la case prison. Une belle, grande, fonctionnelle et toute neuve prison. Ils seront bien traités, je vous assure. Dans une quinzaine de minutes, j'annoncerai que la cérémonie du centenaire est annulée en raison d'une menace terroriste inédite. Avec Teta Manu, Maracanã, l'opinion mondiale a été préparée. Je préciserai qu'heureusement, la tentative d'attentat a échoué grâce au travail et à la collaboration sans faille de l'Organisation militaire mondiale et du Bureau d'investigation criminelle. Vous aussi, capitaine Kim, aurez votre part de gloire. On prendra les assignés la main dans le pot de confiture, ou, si je puis dire, le TPC à leur poignet, prêt à déferler un peu partout sur la planète. Le Congrès mondial ne pourra que me suivre cette fois, poussé par l'Ecclésia. L'opinion mondiale poussera un ouf de soulagement, fustigera l'inconséquence du Congrès d'avoir laissé ces individus en semi-liberté, dans un territoire si vaste qu'il n'était plus possible de les contrôler, à moins de les attirer au dehors, comme je l'ai fait. Que ma cote de popularité sur l'Ecclésia grimpe en flèche ne sera qu'un avantage collatéral qui n'a guère d'importance, croyez-moi. Désormais, le monde vivra en sécurité. Telle est la véritable Nouvelle Babel. Un monde qui allie pour la première fois liberté et sécurité. Micha se sentait de plus en plus fatigué. Tout son corps s'engourdissait. Elle devait économiser au maximum ses forces. Elle aurait aimé mitrailler ce salaud à barbe blanche d'une salve continue d'insultes. Elle se contenta de 5 mots. Au prix d'un mensonge. Un mensonge que nous ne sommes que deux à partager. Un mensonge d'État. Une nécessité aussi vieille que le monde. De l'incendie du Reichstag à Pearl Harbor. Un mensonge capital. Car si convaincre l'Ecclésia ou le Congrès n'était au fond qu'une formalité, restait le plus délicat. Convaincre Pangaea, ma propre fille. Bien entendu, elle ignorait tout de l'opération Pichipoy. Pangaea est idéaliste, rêveuse, naïve. Elle seule possède la capacité de gérer directement la programmation de l'ensemble de la base de données. Les autres ingénieurs de l'Organisation mondiale des déplacements n'ont accès qu'à des antichambres, quelques couloirs du labyrinthe. Elle seule en est le cerveau, en maîtrise le plan complet, et pour elle, téléporter 1 milliard d'hommes à partir de leur TPC n'est pas plus compliqué que d'en téléporter un seul. Vous connaissez Pangaea, capitaine Kim. J'ai tenu à ce que vous la rencontriez. Comme moi, vous avez compris qu'elle était la meilleure garantie pour la sécurité de l'humanité. Jamais elle n'abusera de son pouvoir. Elle est une déesse raisonnable et sage. Je savais que lui faire enfreindre le 4e article de la Constitution de 2058 serait presque impossible. Presque impossible, et pourtant, nécessaire pour assurer la paix sur Terre. Pour qu'elle accepte, pour qu'elle renonce au premier des principes qu'elle s'était juré de toujours protéger, qu'aucun être humain ne puisse jamais être téléporté contre son gré, elle ne devait avoir aucun doute sur la menace qui planait. 11h25. La troisième étape du contrat, c'était le mont Popa, un lieu infesté de militaires et de policiers. Mais le défi me plaisait. Qui aurait pu avoir idée de se téléporter en plein ciel et de finir le trajet en parachute? Victor Cap paraissait petit à petit plus sûr de lui. Sa blessure semblait le faire moins souffrir, soulagé par le garrot et anesthésié par l'adrénaline de ses souvenirs. Le tueur, à défaut de compassion, recherchait dans le regard d'Artem une forme d'admiration. Sauf qu'au moment où je trafiquais la base de données géographiques du service de vérification des reliefs, cours d'eau, littoraux et compagnie, votre copain a débarqué chez moi, à Kolmanskop. Je n'avais pas d'autre choix, c'était lui ou moi. J'avais une troisième étape du contrat à honorer. M'introduire au cœur de Pangaea. Les ordres de Nemrod étaient toujours les mêmes, ne laisser aucun témoin. Mais je devais, cette fois, me contenter de faire peur à sa fille, jouer mon numéro de méchant terroriste, balancer quelques mots. Pichipoy, droit du sang, Ossian. Là encore, votre petite collègue n'était pas prévue au programme. Dire que cette gamine s'est téléportée avec mon Santoku. Celui qu'Artem tenait entre ses mains, avec lequel il résistait à l'envie de lui trancher un second poignet, puis le cou, et de balancer sa tête aux macaques de la jungle birmane. Cléo, assise derrière eux, écoutait, attentive et patiente. « Ensuite, expliqua Cap, ça a dérapé. Le président m'a demandé d'intervenir pour une nouvelle mission ici à Londres, sur Piccadilly, sans aucune préparation. J'ai tiqué, je déteste improviser. Il a insisté et j'ai accepté. Dans ma tête, je rendais ce dernier service au président et ensuite, j'exigeais ma liberté, comme prévu. » De sa main valide, Cap frotta ses paupières. Une déception sincère brouillait ses yeux clairs, aux antipodes de l'habituelle froide assurance du tueur, celle d'un petit enfant trahi par un adulte trop sournois. « C'était un piège. J'avais fait mon boulot. Tétamanou, l'Himalaya, le Mont Popa, ils n'avaient plus besoin de moi. Il fallait m'éliminer. Il vous a envoyé ici pour ça, commandant. Il savait que vous le feriez. J'avais assassiné vos deux adjoints. » Les yeux bleus du tueur fixèrent plus intensément encore Artem. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? J'ai tué vos deux amis. Pourquoi ne m'avez-vous pas tué? Artem se posait la même question. Il s'était réintégré dans l'appartement de Piccadilly Circus avec l'intention de ne lui laisser aucune chance. Les images alimentaient sa rage, celle d'un retraité allemand égorgé sur son lit, d'Elias Kiberville baignant dans son sang, du corps de Babou étendu sur un linceul de sable. La réponse était évidente pourtant. Elle était assise sur une chaise derrière lui, portait une robe fatiguée, tête penchée, visage éclairé par deux grands yeux innocents qui avaient déjà vu trop de morts. Il ne voulait pas croiser dans son regard celui d'un boucher. Car elle le regardait, il le sentait. Et se sentait stupide. Le manche clair du Santoku serré entre ses doigts. 11h30. Galileo Nemrod s'arrêta devant l'horloge de chêne, observa le cadran aux formes alambiquées, puis baissa les yeux sans cesser de parler, comme s'il s'adressait aux pendules de cuivre. « Plus que 5 minutes, capitaine. Il va falloir décider quel camp vous rejoignez. Seul. N'attendez aucune aide. Ce nid d'hirondelle est imprenable. Je crois que même si Pangaïa le voulait, elle ne pourrait pas nous téléporter contre notre gré, ni vous ni moi. Personne ne sait que vous êtes là. Pas même Valeria Everianov. Mais ne vous y trompez pas. Votre destin ne dépend pas de moi. Il ne dépend que de vous. Vous avez le choix, capitaine Kim. Me soutenir. Et ainsi devenir l'une des principales actrices de l'une des plus importantes pages de l'histoire de l'humanité, le jour du centenaire, celui où le plus grand attentat du XXIe siècle a été déjoué grâce à vous. Ou refuser, et succomber tristement, anonymement, à vos blessures. Le pendule de cuivre se balançait sans ralentir ni accélérer, indifférent.
Vous n'êtes qu'une ordure. Lâcha Micha à bout de force.
Galileo Nemrod se contenta de hocher la tête, au rythme des secondes qui s'égrenaient. Impossible de savoir s'il était déçu, surpris ou même vexé. Il se retourna et frotta lentement sa barbe blanche, dans cette attitude de sage grand-père que Micha lui avait toujours connue depuis qu'elle était née et que le président occupait les écrans. « Non !» se défendit le président. Sa voix demeurait d'un calme exaspérant. « Non, sincèrement, je ne crois pas. Napoléon était une ordure. César, Staline, Gengis Khan, Mao et pas mal d'autres. Ils ont des millions de morts sur la conscience et pourtant, leur statue trône encore au milieu des places. Des rues et des écoles portent leur nom. Moi, j'ai à peine 20 morts sur la conscience. 20 morts. Pour acheter la paix pour toute l'humanité ? Est-ce cher payé? Imaginez, si on n'enferme pas ces nationalistes, tout recommencera. Demain ou après-demain, un fou se fera sauter dans la rue, tirera dans la foule et vous, moi, tous ceux qui ont une part de responsabilité dans la course du monde auront alors beaucoup plus que 20 martyrs sur la conscience. Vous n'avez plus que 3 minutes pour réfléchir, capitaine Kim. Dans exactement 3 minutes, un message d'alerte sera diffusé en Mondovision, annonçant officiellement l'annulation de l'opération Nouvelle-Babel. Je l'ai enregistré il y a quelques heures. Tout le monde sera invité à se téléporter le moins possible, à rester cloîtré dans son espace privé pendant que l'Organisation militaire mondiale intervient contre des groupes terroristes dangereux mais parfaitement localisés et maîtrisés. Micha peinait à organiser ses pensées. La drogue l'assommait, elle luttait. Elle ne voulait pas suivre les raisonnements de ce vieux fou. Elle devait le faire parler, coûte que coûte. Il restait 3 minutes, il n'avait pas tout dit. « Vous êtes coriace, capitaine. Je vous croyais plus reconnaissante envers ce monde que nous avons construit pour vous, bien avant votre naissance. Jadis, on se battait pour sa patrie, on mourait pour elle. Des générations de jeunes, sans discuter, partaient offrir leur vie. Un monde en paix vaut bien quelques sacrifices, quelques mensonges, quelques entorses à la Constitution. Je vais vous révéler autre chose. Vous croyez sans doute que je ne suis qu'un vieux radoteur, qui veut faire passer de braves terriens qui ne partagent pas ses idées pour de dangereux terroristes. Une espèce de grand-père paranoïaque bon à interner. À votre avis, capitaine, en ce moment même, où se trouve le plus célèbre de ces agitateurs d'idées ? »
La jeune Coréenne répondit malgré elle.
« Ocean ? » ?»« Oui, ce brave Ocean. Il serait si rassurant de ne voir en lui qu'un simple dissident gentiment impertinent. Eh bien, capitaine, à l'instant où je vous parle, cet inoffensif philosophe est en train de diriger un missile intercontinental vers l'île de Tristan d'Acunha. Je le surveille depuis des années, depuis qu'il a été assigné au Kazakhstan. Sans doute suis-je un peu trop paranoïaque. »
Nemrod étouffa un bref rictus de satisfaction dans sa barbe.
« Mais ce fou a l'intention de détruire la quasi-totalité de l'humanité. Imaginez, si je ne l'avais pas gardé à l'œil, si je n'avais pas fait surveiller le cosmodrome de Baïkonour. »
Le président se rapprocha lentement du lit.
Vous noterez au passage ce délicieux paradoxe, capitaine Kim. Dans quelques minutes, Ocean ne va pas détruire cette humanité qu'il exècre. Il va détruire une prison. Une prison où seront enfermés dans quelques secondes tous ses amis, tous ses alliés, tous ceux qui de près ou de loin partagent ses idées. Pas ses méthodes, je vous l'accorde, mais ses idées. Il va même rayer de la carte et pour quelques générations toute trace de pensée nationaliste.
Et vous ne ferez rien pour l'empêcher ?
Je veux bien assumer la responsabilité de la mort de quelques retraités allemands, d'un odieux trafiquant d'êtres humains.
D'un lieutenant de police, eut la force d'ajouter Micha dans sa tête.
Mais pas de cela. Comprenez bien, capitaine. La compétition, la prédation est inscrite dans les gènes de tout nationalisme, de toute revendication territoriale. Exterminer ou être exterminé. Laissons-les alors. Laissons-les s'entretuer pour leurs idées dans l'île la plus isolée du monde et qu'ils laissent le peuple libre et pacifique du reste de la terre en dehors de leurs querelles mortifères.
11h35.
Qu'allez-vous faire de moi ?
Artem fit passer le santoku de sa main droite à sa main gauche plusieurs fois. Il percevait le regard laser de Cléo dans son dos. En réalité, il attendait depuis le début que Cap se jette sur le TPC posé devant lui, sur la table du salon, pour lui fournir une raison de lui planter le poignard en plein cœur. Victor Cap n'esquissait pas le moindre geste.
C'était peut-être mieux ainsi, analysa Artem. La présence de cette femme n'allait-elle pas atténuer ses réflexes ? Je vais vous livrer à la justice, assura le commandant. Vous aurez droit à un procès public. Vous parlerez devant des caméras. Le monde entier saura.
Le tueur éclata d'un rire sinistre, se jetant plus profondément dans le canapé.
Et vous n'avez donc rien compris ? Jamais je n'avouerai, commandant. Jamais je ne répéterai devant des jurés ou une télé ce que je viens de vous raconter. Et si vous en parlez et que je suis encore vivant, je nierai. Parce que j'ai passé un contrat, commandant. Parce que je ne suis qu'un soldat. Et surtout parce qu'au fond,
Il releva sa jambe droite et posa son moignon à plat sur son genou.
Parce qu'au fond, je suis d'accord avec Galiléo Nemrod. Il faut liquider tous ces fascistes qui veulent revenir à l'ancien régime, rétablir les races et les frontières, et empêcher les types comme moi d'avoir autant de liberté qu'une petite élite bien née.
Artem se recula lui aussi dans son fauteuil, concentré sur la profession de foi du tueur.
Il paraît que mon ancêtre, James Cap, il y a 3 siècles, a quitté l'Irlande, avec toute sa famille, à bord d'un transatlantique. Ils étaient 19, frères et sœurs, cousins, parents, entassés avec des milliers d'autres dans la cale. Tous sont morts pendant la traversée, de soif, de faim et de maladie, tous, sauf lui. Alors que sur le pont du bateau, on chantait, on dansait et on buvait du champagne. Le président Nemrod m'a trahi. Il avait de bonnes raisons pour cela. Mais moi, je ne le trahirai pas.
11h40. Ossian leva les yeux. Dans le ciel du Kazakhstan entièrement bleu, le missile Sarma TRS-29 s'éleva. Il suivit une courbe parfaite au-dessus de Baïkonour, pour disparaître en quelques secondes. Il mettrait exactement 16 minutes et 23 secondes pour atteindre l'île de Tristan d'Acunha. Il n'existait plus, sur Terre, aucun bouclier antimissile en activité. La nouvelle Sodome était lancée. Désormais, plus rien ne pourrait l'arrêter.
11h40.
Maintenant, dit Assima Majdalawi.
Sous les platanes de la forêt de Kourama, près de Tashkent, les centaines d'assignés accrochèrent les TPC à leurs poignets. Ils se téléporteraient par groupes de 4 ou 5, parfois moins. Les cibles alternaient entre lieux emblématiques et lieux symboliques. Les principales places des anciennes capitales mondiales étaient visées. Times Square, Place Rouge, Tiananmen, San Marco, Jemaa el-Fna, Plaza de la Revolution. Tout autant que les palais, cathédrales, temples, mosquées, mausolées. Partout où, au cours des millénaires, des hommes et des femmes étaient tombés pour défendre leur terre. Ossuaire de Verdun, ghetto de Varsovie, Ground Zero, mémorial de Gisozi à Kigali, de Tsitserna Berd en Arménie, de Srebrenica en Bosnie, d'Alabja au Kurdistan. Ils ramassèrent banderoles, drapeaux, costumes, tambours. Combien de temps les policiers et les militaires mettraient-ils pour les arrêter? Combien d'hommes, de femmes les rejoindraient? Une majorité de citoyens, au fond d'eux, soutenaient leur cause. Ils en étaient convaincus. Plus le jardin d'un homme est vaste, plus ses racines doivent être profondes. Ils prirent quelques secondes pour une dernière et longue méditation. Une seule terre à partager, un seul monde à bâtir. Les océans sont le ciment, les peuples en sont les briques. Le temps de repenser à tous ceux qui les avaient précédés, à tout ce qu'ils avaient à défendre, à ce passé qui les hantait, les habitait, à cette merveilleuse diversité. À leurs ancêtres, ils seraient fiers d'eux. Tous voulaient s'en persuader.